radio de la paix. Il est 12h.
La fréquence de la paix. Yo, mais c'est. Oh, la dame, monsieur. Yaga, yo. Bless up the fire, could never stop at the wire. Yo, mais c'est. La paix ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Y'a tellement de bonnes choses à partager. La paix ensemble.
De midi, Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. À une de ce 12h, le premier sommet Corée du Sud Afrique de l'histoire s'est ouvert à Séoul ce mardi avec la participation de 25 chefs d'État et des délégations de 48 pays du continent. Objectif, dynamiser les relations politiques mais surtout économiques entre l'Afrique et la Corée du Sud. Dans l'actualité également sur le continent, en Afrique du Sud, l'ANC, les négociations ont commencé pour former une coalition afin d'élire le chef de l'État. En fin d'édition, l'invité de la rédaction, Soro Adams, recevra professeur Kwadio Gessan, enseignant en histoire des relations internationales. Et au centre des échanges, l'impact de la reconnaissance internationale de l'État de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et également sur l'évolution du statut international de cette enclave. Ce mardi 4 juin s'est ouvert le premier sommet Corée du Sud-Afrique de l'histoire à Séoul. 25 chefs d'État et les délégations de 48 pays du continent africain ont fait le déplacement dans la capitale coréenne. L'objectif de cette rencontre est de dynamiser les relations politiques, mais également économiques entre l'Afrique et le pays du matin calme pour formaliser les échanges et fixer les contours de ce partenariat global entre les deux parties. Un communiqué conjoint sera signé avec Mohamed Gazaouni, le président mauritanien, qui co-préside le sommet en tant que président en exercice de l'Union africaine. Et depuis dimanche, de nombreux tête-à-tête ont eu lieu entre les différentes délégations, en premier lieu avec l'Éthiopie et la Tanzanie. Et des accords dans les domaines de l'éducation, du développement agricole ont également été signés avec plusieurs États. Et ce mardi après-midi, des entretiens entre le président coréen et les chefs d'État du Kenya, de Madagascar, du Libéria et du Ghana sont prévus. D'autres annonces de partenariat important pourrait donc intervenir dans les prochaines heures, d'autant qu'une rencontre de haut niveau est prévue demain mercredi avec les entreprises sud-coréennes. On parle toujours de sommet, cette fois à Abidjan, capitale de la jeunesse africaine, qui accueille du 3 au 7 juin le troisième sommet panafricain de la jeunesse autour du thème « Un avenir panafricain inclusif, la ZLECAF et le MAEP au service de la jeunesse ». Les explications ici de Jean-Claude Mabéa.
Ce troisième sommet panafricain de la jeunesse qui se tient du 3 au 7 juin 2024 à Abidjan est un événement majeur qui réunira plus de 3000 jeunes leaders issus des 54 pays d'Afrique en vue d'explorer comment les jeunes peuvent contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois en exploitant pleinement les avantages de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, et de la lutte contre l'instabilité sur le continent. Ce rendez-vous d'Abidjan vise également à encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans la promotion de la transparence, de la démocratie et de la redevabilité dans leurs pays respectifs à travers le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation des pairs. Cette plateforme de dialogue et de concertation entre les jeunes africains va les permettre aussi d'échanger sur le développement du continent. Il est donc prévu au programme des ateliers portant sur les sous-thèmes tels que la ZLECAF, le MAEP, l'agenda 2063 de l'Union africaine, paix et sécurité en Afrique et surtout l'emploi des jeunes.
Merci à vous Jean-Claude Mabéa. Plus rien ne se fera en dehors du manuel de procédure édité par le ministère délégué auprès du ministère des Transports chargé des Affaires maritimes. Ce manuel de procédure a été présenté hier par le ministre Cérédo Célestin lors de sa visite de travail à la région maritime Est dans la commune de Grand Bassam dans le cadre de sa tournée aux arrondissements maritimes maritime débuté le 23 avril dernier par la ville de San Pedro. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Lors de cette visite du travail, le colonel Moulay Kone, directeur régional maritime Est, n'a pas manqué d'égrener quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Il s'agit d'un conflit de compétences et en rapport avec le domaine public maritime. Nous avons soumis ce problème à monsieur le ministre parce que depuis près de 2 ans, nous avons du mal à faire le recouvrement de cette redevance. Les difficultés, c'est l'acquisition de matériel naval, de moyens de dissuasion.
Le ministre Serré Dossé Célestin a insisté sur l'appropriation par les agents des affaires maritimes du manuel de procédure pour une affaire maritime performante.
Ce document doit être considéré et utilisé comme une boussole, un bréviaire, un guide, non seulement pour harmoniser les pratiques ou opérations, mais aussi pour minimiser les risques d'erreur.
Le ministre en charge des affaires maritimes s'est saisi de l'occasion pour annoncer les avancées notables pour son ministère.
Premièrement, la signature par le président de la République de l'organigramme de notre département ministériel consigné dans le décret 2024-274 du 8 mai 2024, portant organisation du ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. L'érection des antennes maritimes d'Assini, de Bengerville et de Fresco en arrondissement maritime.
La présentation des procédures des services déconcentrés du ministère délégué aux Affaires maritimes était aussi au menu de cette visite du travail.
Et nous nous rendons à Boaké où la ville initie une levée de fonds pour le financement de ses projets productifs. Le lancement a eu lieu hier lundi à Abidjan sur la nature et le contenu de cet engagement du maire Amadou Kone et son équipe. Suivons les explications de Kadi Fadiga, et c'est le directeur général de Hudson et compagnie, spécialiste des bourses, partenaire de son projet.
Une levée de fonds, c'est un processus qui permet de financer des projets. Le cadre dans lequel nous sommes ce matin, c'est par le marché financier régional. Et donc, c'est d'emprunter auprès d'investisseurs présents sur notre marché financier de l'UEMOA. Et ces investisseurs-là sont ceux qui collectent l'épargne dans l'UEMOA, donc les banques, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, qui sont aujourd'hui les investisseurs pour des projets, et notamment ce projet de la mairie. Il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est la diversification des sources de financement, parce qu'on ne peut pas aller chercher de l'argent à un seul endroit. Si jamais ce n'est pas possible, on est en risque. Le deuxième intérêt majeur, c'est la maturité, c'est-à-dire que à la banque, la mairie sera capable d'emprunter sur des maturités courtes et sur le marché financier, on peut aller sur des maturités très longues. Donc pour financer des projets qui sont rentables à long terme, il vaut mieux avoir du financement à long terme. Et seul le marché financier peut permettre d'aller à 15-20 ans. Par rapport au projet ambitieux de construire une base logistique, mais également une gare routière moderne, je ne vais pas donner le montant, mais le montant est conséquent.
Vous écoutiez Kadi Fadiga Koulibaly, directrice générale de Hudson et compagnie, spécialiste des bourses, partenaire dans le projet de levée de fonds pour le financement des projets productifs à Boaké. La première édition de la journée carrière des personnes en situation de handicap, dénommée Handicapable, s'est tenue le samedi 1er juin à Boaké, initiée par la coordination des associations des personnes handicapées du district autonome de la vallée du Bandama. Cette activité a bénéficié du soutien de la coopération allemande, de la société Sans Barrières et de l'ONG internationale de développement. En ligne donc de Boaké pour le compte-rendu, Joseph Assalé.
Cette journée carrière des personnes en situation de handicap, dénommée Handicapable, vise un triple objectif. Selon Koulibaly Daouda, le président de la coordination des associations des personnes handicapées du district autonome de la vallée du Bandama.
Le premier objectif, c'est de faire la promotion des créations des savoir-faire des personnes handicapées. Deuxième objectif, c'est de vendre cette création et ces talents qu'ils ont. Et le troisième objectif, c'est de veiller à l'application du décret que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a signé le 9 mai 2018 pour pouvoir embaucher les personnes en situation de handicap à l'emploi. À 100 employés, il faut prendre 1% une personne en situation de handicap. À plus de 100 employés, il peut pouvoir prendre 2% des personnes en situation de handicap.
Ouattara Ibrahima de la direction régionale de la protection sociale de Boaké dresse le tableau suivant.
Force est de constater qu'il y a une grande marge qui est encore en dehors de la formation professionnelle et en dehors de l'emploi. Que certains sujets doivent changer de paradigme sur le handicap. Le handicap, c'est pas une fatalité.
Une éclaircie cependant dans cette grisaille a rassuré Atta Ebe Constant, le directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Boaké.
Aujourd'hui, nous avons des élèves en situation de handicap qui suivent des formations professionnelles dans nos écoles.
Notons que des expositions d'art, de couture, de produits médicamenteux confectionnés par les personnes handicapées ont meublé cette journée carrière handicapable. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Et à Yamoussoukro, la centrale de Cajou, Fédération nationale des unions de sociétés coopératives des producteurs de la filière Anacard de Côte d'Ivoire, a procédé le mercredi 22 mai à la remise de matériel bureautique aux 19 unions régionales des sociétés coopératives et producteurs de noix de cajou. Ce sont plus de 60 millions de francs CFA de matériel informatique et bureautique qui ont été remis à l'occasion pour accompagner la structuration de ces unions régionales. Les détails avec notre correspondant Emiliao.
Le président de la centrale de Cajou, Fédération nationale des unions de sociétés coopératives des producteurs de la filière Anacard de Côte d'Ivoire, Soro Bay.
Nous sommes ici pour pouvoir accompagner, on va dire, la structuration de nos unions régionales qui étaient initialement installées. On a voulu rehausser l'image de ces installations qui aussi reflètent l'image de la filière. L'objectif pour nous, déjà, c'est d'inviter les producteurs à se mettre dans le train du développement qui a été initié par le président de la République à travers le développement du monde agricole. Et pour nous, notre manière de contribuer, sinon de participer à cette politique.
Le président Soro Bay et son équipe comptent poursuivre ce processus d'accompagnement à l'effet d'aider les producteurs à optimiser leur exploitation.
Après la structuration, l'étape suivante sera la mobilité pour permettre l'accès facile à l'ensemble des producteurs par nos unions. Après avoir traité la question de la mobilité, on va passer dans la dernière phase qui est l'industrie primaire par la mise en place des unités de décorticage et de transformation de la pomme.
Le représentant du ministre de l'Agriculture, Kwasi Kwaku André, salue l'initiative de la centrale de Cajou et invite les récipiendaires à un meilleur usage des kits reçus.
Je voudrais vraiment inviter les responsables des UR à faire bon usage de ces matériels. Donc, vous avez là du matériel qui doit vous motiver davantage, qui doit vous témoigner de l'affection que ceux qui sont devant vous là ont pour vous.
Les bénéficiaires, de par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude et engagement à aller de l'avant pour le rayonnement de la filière Cajou. Emiliao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et puis les acteurs du secteur du tourisme dans le district du Bassassandra ont vu leur capacité renforcée à travers un atelier le 3 juin à San Pedro. Objectif, maintenir donc la flamme de la qualité après la canne afin de continuer à promouvoir la destination sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les détails avec Ophi Benson.
Maintenir la qualité de l'offre dans le secteur du tourisme dans le district du Bassassandra nécessite des dispositions, dont la formation, selon Kofi Suzanne, directeur régional du tourisme à San Pedro.
Nous savons que la qualité ne peut être obtenue sans la formation. Donc, on a un programme de formation sur toute l'année. Nous attendons que les hôteliers, les restaurateurs adhèrent à ces formations, qu'ils comprennent le sens de la formation, aussi le sens de la qualité de l'offre et qu'ils comprennent que si leurs agents sont bien formés et que l'offre est de niveau, la destination San Pedro sera forcément une destination privilégiée en Côte d'Ivoire.
Le groupe Essor assure la formation de ses acteurs de l'hôtellerie et de la restauration à San Pedro depuis plusieurs années. Pour son directeur général Kaku Esso, la formation est la clé du succès après la canne, tout comme avant la canne.
Si vous devez vous former par le biais du fonds de développement de la formation professionnelle, il faut que vous soyez une entreprise constituée en payant donc les impôts régulièrement. En tant que privé, vous sortez l'argent pour vous former. Et puis aussi, nous avons des projets collectifs qui peuvent regrouper les jeunes et chercher une institution pour financer ses formations. Quand un individu est bien formé, on a gagné. Celui que nous sommes en train de faire, c'est une formation post-CAN, parce que la flamme doit être maintenue. C'est vrai que le temps ne m'a pas reconnu en tant que tel, mais nous avons été les acteurs de la notion de la CAN d'hospitalité. Je suis très satisfait, surtout pour ce qui s'est passé sous notre initiative. On a eu à débourser près de 60 à 80 millions dans le cadre de ces formations, puisqu'on a offert des formations gratuites à San Pedro ici et puis à Korogo. Et c'est ça qui a créé l'engouement.
Ce sont 82 agents issus de 53 entreprises qui bénéficient de cette formation de 2024. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud, les négociations à huis clos entre parties ont déjà commencé. Un groupe de travail doit se réunir cette semaine puis fournir des scénarios aux membres du comité de l'ANC, le comité exécutif. L'Assemblée nationale doit également se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner le prochain chef de l'État. En attendant donc, les principaux dirigeants du parti au pouvoir doivent se réunir dans la semaine. Le siège du parti à Johannesburg et parmi eux, le président Cyril Ramaphosa, chef du parti, ainsi que son numéro 2. Pour rappel, la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des élections générales oblige donc les discussions, qu'il y ait ces discussions qui devraient porter sur les possibilités d'alliance avec l'opposition. Et puis nous sommes de retour en Côte d'Ivoire, cette fois pour la dernière articulation de ce journal, avec Soro Adams qui reçoit professeur Kwadio Guessant, enseignant en histoire des relations internationales. Au centre des échanges, l'impact de la reconnaissance internationale de l'État de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège sur l'évolution du statut international de cette enclave.
Bonjour professeur Guessant Kwadio.
Bonjour monsieur Soro Adams.
Palestine, quel est donc ce pays qui fait tant parler de lui?
C'est un territoire à l'est de la mer Rouge, coincé en réalité à l'intérieur du territoire juif d'Israël. Tout commence véritablement en 1947, lorsque, en raison des conflits entre les deux communautés, la communauté juive et la communauté arabe-palestinienne, les Nations Unies décident de diviser ce territoire-là entre les deux communautés. Malheureusement, et c'est la première source de la discorde que nous vivons en ce moment, c'est que le partage a été fait de manière désordonnée. Lorsque vous prenez la Palestine, au niveau du partage, vous remarquerez qu'il y a une partie, par exemple à gauche, qui a été attribuée aux Palestiniens, un autre morceau qui se trouve au nord-est attribué aux Palestiniens.
Mais qui a fait cette division?
Ce sont les Nations Unies. Parce que le colonisateur anglais, à un moment donné, a été incapable de concilier, n'est-ce pas, les intérêts des deux communautés, juives et palestiniennes. C'est en 1947 que les Nations Unies, face à cette situation, décident de diviser ce territoire-là entre les deux communautés qui sont en conflit en ce moment.
Donc, l'ONU décide de diviser le territoire entre les deux communautés, mais une division qui a été très mal faite.
Une division qui a été très mal faite, première source du conflit.
Deuxième source du conflit.
Deuxième source du conflit, c'est que au moment du partage, en raison des différends qui existaient entre les deux communautés, les Palestiniens refusent la partie que leur a attribuée l'ONU, avec le soutien des autres pays arabes, ce qui sera à l'origine justement de la première guerre israélo-arabe en 1948.
Refus pourquoi?
Refus parce que les Arabes ont toujours estimé que ce territoire ne devait pas revenir aux Israéliens, aux Juifs, et que c'est leur territoire.
Autrement dit, Israël ne devrait pas se trouver là.
Israël ne devait pas se trouver là. Et pourtant, lorsqu'on remonte, n'est-ce pas, dans l'Antiquité, il se trouve que les deux communautés ont existé là, de tout temps. Aussi bien les Arabes, aussi bien les Juifs.
Donc une guerre.
Une guerre, première guerre israélo-arabe de 48 à 1949.
Et la suite?
Et la suite, c'est qu'il y a eu près de 4 conflits armés entre les deux communautés.
Mais pourquoi la Palestine n'est toujours pas reconnue?
La Palestine n'est pas toujours reconnue. Vous savez, il y a le droit international, mais il y a la politique, il y a les puissances internationales, etc. Imaginez-vous que pendant cette guerre, vous avez dû voir qu'il y avait une situation humanitaire qu'on devait absolument décrier. Et malgré cette situation difficile, il y a des superpuissances qui ne l'ont pas reconnue, qui, à la limite, continuaient d'appuyer Israël, de soutenir l'État hébreu en lui offrant des armes, des munitions, etc. Poussant l'État juif à toujours faire la différence.
3 pays européens viennent de reconnaître l'État de la Palestine. Quelles conséquences pour la suite sur ce douloureux dossier entre Israël et la Palestine?
Disons que, à l'analyse des faits, La seule véritable solution qu'on peut trouver dans cette région du monde est, de la même manière que l'État juif a été proclamé en mai 1948, c'est de pouvoir aussi proclamer un État pour les Palestiniens, quitte aux deux communautés, aux deux États, de vivre côte à côte. Alors, les trois États européens qui l'ont fait, d'autres l'avaient fait déjà, je pense que d'autres suivront, mais tout ça est fait au regard du droit international et du droit humanitaire.
Mais l'État, oui, expliquait simplement qu'est-ce que c'est et pourquoi la Palestine, pas un État.
La meilleure définition qu'on applique à un État, c'est celle qui nous vient des juristes. Un État, c'est-à-dire un territoire d'abord, avec des frontières naturelles ou artificielles, il doit être reconnu par les autres États. Deuxième élément, il doit exister une population sur ce territoire. Et le troisième critère important, selon les juristes, c'est qu'un État doit pouvoir disposer d'une loi fondamentale, d'une constitution, etc.
Et ce n'est pas le cas en ce moment pour la Palestine?
Ce n'est pas le cas pour l'instant pour la Palestine. Toutes les conditions de la création d'un État ne sont pas totalement pour l'instant réunies.
Et trois pays européens donc reconnaissent l'existence d'un, oui, État de Palestine. Quel impact possible sur la reconnaissance au plan international?
Je pense que ça va créer un effet de boomerang. Mais n'oubliez pas que les relations internationales sont régies par des règles, mais aussi sont régies par la volonté des grandes puissances. Et on verra bien.
Je vous remercie, professeur.
Je vous en prie.
Professeur Kwadio Guessan, enseignant en histoire des relations internationales, invité de la rédaction aujourd'hui, répondait aux questions de Soro Adams. Et c'est la fin de cette édition dont voici le rappel de l'essentiel. Le premier sommet Corée du Sud-Afrique de l'histoire s'est ouvert à Séoul ce mardi avec la participation de 25 chefs d'État et des délégations de 48 pays du continent africain. Objectif, dynamiser les relations politiques mais surtout économiques entre l'Afrique et la Corée du Sud. Et puis en Afrique du Sud, les négociations ont commencé pour former une coalition afin d'élire le chef de l'État. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de la presse ivoirienne avec Aoussi Potin.
Bonjour. Trois sujets meubleront notre...